France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Johan Cruyff et le football total ou l'art de l'espace. Cruyff, un nom qui figure depuis des décennies dans la liste des plus grands joueurs de l'histoire, aux côtés de ceux de Maradona, Pelé, Messi ou Platini. Pionnier du football moderne qu'il incarne mieux que personne. Père spirituel du FC Barcelone et de son beau jeu. Aussi collectif dans sa conception du football qu'individualiste dans le privé, Johan Cruyff est le joueur le plus influent de l'histoire du football. Sous la houlette de Rinus Michels, son entraîneur à l'Ajax d'Amsterdam, ils inventent tous les deux le football dit « total », où toute l'équipe, y compris les arrières, est mobilisée lors d'attaques par vagues, aussi spectaculaires qu'efficaces et qui ont fait le bonheur de l'Ajax, trois fois de suite vainqueur de la Ligue des Champions, qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions. Johan Cruyff, un grand bonhomme, un seigneur de football, dont l'histoire, soyons honnêtes, n'a rien de vraiment sensible. Mais la raconter, c'est finir l'année sur une note positive, agréable, rafraîchissante, en un mot commençant, festive. Notre invité aujourd'hui, Chérif Guémour, journaliste chez SoFoot et auteur de Johan Cruyff, génie pop et despote, paru chez Hugo Sport. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Guillaume Balandras, rédaction chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca de Nantes. Réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Décembre 1966, nuit noire sur Amsterdam. Une nappe de brouillard venue de la mer du Nord enveloppe la ville, comme souvent. Dans les faubourgs, les rues sont désertes, silencieuses. Il faut dire que ce soir, toute la ville s'est donné rendez-vous au stade olympique. Malgré le froid, ils sont 60 000 à avoir fait le déplacement pour assister à un match de Coupe d'Europe. L'Ajax reçoit les champions d'Angleterre, archi-favoris de la soirée, les Reds de Liverpool. À l'heure des Beatles, c'est de la British Invasion. La ville portuaire britannique est à l'avant-poste du Nouveau Monde. Les joueurs de son équipe de foot font rêver les gamins d'Angleterre, les avants Roger Hunt et Ian St. John, mais aussi l'indéboulonnable Callaghan. Avec leur coupe de rockstar et leur palmarès prestigieux, ils débarquent sur le terrain sous les acclamations des milliers de fans anglais qui ont fait le déplacement.
And good evening to the Olympic Stadium, Amsterdam, where tonight Liverpool are meeting Ajax in this very important European Cup tie first leg, first round match. Well, here is the lineup on the field in actual fact. The Lawrence, Lawler and Stevenson, Smith, Yates and Strong, Callaghan, Hunt, St. John, Graham and Thompson.
Vissé sur son siège, le long de la ligne de touche, vêtu d'un épais manteau en tweed, l'entraîneur de Liverpool, le charismatique écossais Bill Shankly, observe le terrain en fronçant les sourcils. Malgré les puissants éclairages du stade olympique, le coach n'arrive pas à voir le but adverse. Cette fichue brume va rendre le match impossible, pense-t-il. Pourtant, hormis les aléas de la météo, l'homme est plutôt serein. Cette équipe de l'Ajax ne lui fait pas vraiment peur. Certes, elle a remporté le modeste championnat néerlandais la saison dernière, mais leurs joueurs font presque figure d'amateurs à côté des siens. Et à vrai dire, on n'en est pas loin. Voilà seulement trois mois que l'équipe hollandaise s'est professionnalisée sous l'impulsion d'un ancien joueur mystérieux et taciturne de 38 ans, Rinus Michels. Visage sévère, regard impassible et cheveux plaqués en arrière, Michels, lui, n'a que faire de la météo. Il préfère se concentrer sur ses poulains. Droit comme un piquet, il les observe entrer sur la pelouse comme un officier sur un champ de bataille. Depuis son arrivée au club, un an et demi plus tôt, son air autoritaire et ses méthodes musclées lui ont valu un surnom sans équivoque, le Général. À cause de lui, les joueurs sont soumis à des entraînements quotidiens. Maintenant, les gars se donneront au maximum, glisse-t-il à son adjoint. Avant d'ajouter, ils savent qu'autrement, ils retourneront à leur boulot pourri. Parmi les 11 titulaires qui défilent, il y a par exemple l'attaquant Pete Kayser, ancien buraliste, ou encore Harry Hahn, qui a été instituteur. Face à eux, Rinus Michels est à la fois fier et ambitieux. Avec sa méthode intensive, l'Ajax a quitté les profondeurs du championnat hollandais et se retrouve désormais en Coupe d'Europe.
Il est capital pour mes joueurs d'avoir un bagage technique, mais aussi d'importantes qualités physiques. Nous passons beaucoup de temps à nous entraîner pour développer ces deux aspects. Je leur fais répéter les mêmes mouvements pour qu'ils se posent le moins de questions possible. Le jeu doit être automatique.
Au sein de son dispositif, Rinus Michels compte particulièrement sur un jeune prodige de 19 ans, un milieu de terrain maigrichon aux jambes de lévrier et à l'intelligence redoutable, un certain Johan Cruyff. Fils d'un employé de club mort quand il avait 12 ans, enfant du quartier du Stade d'Omer, celui que tout le monde appelle Yopi est un pur produit de l'Ajax. Adolescent fêtard, amateur de baseball, colérique face aux arbitres et allergique à l'autorité, il se distingue depuis ses débuts par son talent naturel, balle au pied, mais aussi par un comportement de patron. Oui, comme nous l'explique son coéquipier, Pete Kayser.
Il n'était vraiment pas épais, mais dès le début, il s'est mis à nous donner des ordres et à nous faire des signes pour nous dire dans quelle direction faire nos appels. Il n'était pas le moins du monde intimidé. Même à cet âge-là, il voyait le jeu beaucoup plus vite que n'importe qui.
En cette fin 1966, voilà 8 mois que Cruyff est titulaire dans l'équipe première. Regard, bravache, parfois arrogant, démarche de félin et souplesse de danseur étoile, le jeune homme a déjà un style inimitable, sur le terrain et en dehors. Ainsi, il est le seul dans l'effectif à régulièrement remettre en question les consignes du général. D'ailleurs, sa réputation de rebelle a déjà largement dépassé les frontières d'Amsterdam. 3 mois plus tôt, pour l'une de ses premières sélections en équipe nationale des Pays-Bas, il est devenu le premier international orange à recevoir un carton rouge. Pourtant, malgré son individualisme sauvage, Cruyff est déjà un atout dans le système de Rinus Michels. Sans lui, l'équipe est plus lente et peu inventive. Mais dès qu'il entre sur le terrain, tout s'éclaire. Grâce à sa vision du jeu hors du commun, ses coéquipiers jouent mieux. Et les ballons transpercent les cages adverses. Un instinct stratégique qu'il expliquera des années plus tard à la télévision hollandaise.
Beaucoup de joueurs font la même erreur. Ils veulent aider un coéquipier en s'approchant. Mais on l'aide bien mieux si on s'en éloigne. Si j'ai la balle et que je suis face à un défenseur, tu m'aides beaucoup plus si tu pars plus loin dans un espace libre.
En cette soirée du 7 décembre 66, ce sixième sens, cet instinct du jeu va être plus que nécessaire. La brume est tellement épaisse que les joueurs ne voient pas les cages adverses. Alors quand le coup de sifflet de l'arbitre retentit, tous les observateurs présents se posent une question. Comment jouer au foot dans de telles conditions?
And away they go. Liverpool kick off attacking the goal, two on the left. And right away, Ajax intercept. Ronnie Yates swinging it right down the field.
Très vite, les joueurs de l'Ajax montrent que le football ne se joue pas seulement avec les yeux. Il s'appuie sur des automatismes travaillés à l'entraînement. Grâce au travail tactique de Michels et à l'intelligence de jeu de Cruyff, les 11 joueurs se retrouvent et se trouvent les yeux fermés. Et dès la 3e minute de jeu, ils marquent. Sur une ouverture de Cruyff, le gardien de Liverpool arrive en retard et se fait surprendre par une tête de Chess de Wolf. La visibilité est tellement pauvre que seuls les spectateurs proches de la cage réagissent, entraînant des célébrations en cascade.
Zwart nog steeds. Kans. Oh! Neuninga en een doelpunt.
Quelques minutes plus tard, l'Ajax double la mise lorsque la frappe de Klaas Nuninga est repoussée par le gardien avant d'être reprise par le renard Johan Cruyff. En un quart d'heure à peine, le jeune milieu de l'Ajax est l'artisan des 2 premiers buts. Dans les gradins, les supporters britanniques sont sans voix. Face à la symphonie invisible des 11 funambules hollandais, leurs joueurs semblent perdus. Habitués au duel physique et à la clarté des lignes de terrain, les Anglais ne peuvent ni se coordonner, ni repérer les mouvements adverses. L'air hagard, en retard sur chaque ballon, ils encaissent 2 buts de plus avant la mi-temps. 4-0 la pause. Heureusement pour les supporters de Liverpool, la deuxième période est plus équilibrée. Chaque équipe marque un but. Le score final ne laisse tout de même que peu de place au doute. 5-1 pour l'Ajax. Face aux journalistes, Rhys Michels affiche un sourire carrassier. Cette victoire est la preuve que notre équipe est une force à reconnaître au niveau international, dit-il. Parole prophétique. Mais derrière l'ambition sportive du taciturne entraîneur se cache un autre enjeu, esthétique, culturel. Révolutionner la façon de jouer au foot. En cette fin d'année 66, Michels est en train de poser les fondations d'un système révolutionnaire qui s'apprête à prendre le monde du ballon rond par surprise, le football total. En à peine un siècle d'existence, ce sport est déjà passé par de nombreuses évolutions. De la bataille rangée née dans les tréfonds de l'Angleterre victorienne, il s'est structuré autour de 3 lignes clés, la défense, le milieu et l'attaque. Ces 3 lignes inamovibles, Rhys Michels tente de les dynamiter avec une nouvelle philosophie. Un système inspiré par la grande équipe hongroise de Puskás et basé sur le mouvement permanent de tous les joueurs de champ, mais aussi sur la permutation des postes durant les matchs. Pour parvenir à ses fins, Michels convoque toutes les semaines ses joueurs dans une salle de classe. Doigt pointé sur le tableau, le général livre sa science du jeu dans de véritables cours magistraux.
Le football ne peut pas être entièrement réduit à des formules mathématiques. Il faut pouvoir surprendre l'adversaire. Je veux des joueurs imprévisibles. Vous n'êtes plus des écoliers aux petites joues roses, mais des combattants.
Pourtant, malgré les conférences théoriques et les entraînements quotidiens, les débuts sur le terrain du système Michels sont inégaux. Début 67, l'Ajax est encore une équipe jeune, qui pêche parfois par excès d'enthousiasme et de naïveté. Ainsi, lors du match suivant la victoire écrasante sur Liverpool, et malgré les 5 millions de Hollandais qui les soutiennent, l'Ajax se fait éliminer en 8e de finale par la solide équipe du Dukla Prague. Pour l'entraîneur, cette défaite est une leçon. Si son équipe veut remporter des trophées, elle va devoir gagner en maturité. Alors, de retour à Amsterdam, le général fait plusieurs changements importants dans l'effectif. Le capitaine Fritz Sotkoff, prononciation non garantie, les Français apprennent rarement le hollandais à l'école, désolé, est vendu aux rivaux d'Eindhoven, tandis que le défenseur Ton Pronk passe au milieu de terrain. Mais surtout, Michels confie les clés de son dispositif au jeune premier de son équipe, l'étoile montante du football hollandais, évidemment Johan Cruyff. Ainsi, avant chaque partie, Joppy est pris à part par le général pour discuter des dispositifs novateurs à adopter. Après la présence physique des Anglais, les démonstrations techniques des Brésiliens ou le catenaccio subtil et stratégique des Italiens, voici venu le temps du jeu offensif, collectif et imprévisible des Néerlandais, une philosophie que résume Cruyff dans ses mémoires.
Si vous choisissez le meilleur à chaque poste, vous n'aurez pas une bonne équipe, mais 11 numéro 1. Quand tu as la vision et la passe, tu n'as besoin de rien d'autre. Le foot, c'est comme la vie. Vous devez voir, vous devez penser, vous devez bouger, vous devez aider les autres. Finalement, le foot, c'est assez simple.
De retour dans le championnat national, l'Ajax écrase la concurrence. Avec leur changement incessant de position, une couverture systématique des espaces en défense et un contrôle continu du ballon, les joueurs proposent un jeu à la fois simple de l'extérieur et complexe de l'intérieur, discipliné et créatif. Virtuose, ils deviennent champions des Pays-Bas en 66, 67, 68 et 69. Ils établissent même un record qui tient toujours, 122 buts en 34 matchs disputés sur une saison. Au début de l'année 69, près de 2 ans après le match dans le brouillard, les hommes de Rennie Michels retrouvent les matchs à élimination directe de la Coupe d'Europe des clubs champions. Après un premier tour sans encombre, les Ayacides, les joueurs de l'Ajax, affrontent en quart de finale un ogre de la scène européenne à l'époque, le Benfica de Lisbonne. Et pourtant, vainqueur du titre en 62, finaliste de la dernière édition, le Benfica du grand Eusebio est mis en échec par l'Ajax et son irrésistible Johan Cruyff sur un score sans appel, 3-0. Même le commentateur néerlandais n'en revient pas.
Van Suurbier. Keizer. Danielson. Compleet gemist, de kans van Cruyff. Oh la la! Hij zit erin! Ik dacht, die man slaat hem corner wel mee. Een schot van Johan Cruyff in de tweede minuut van de verlenging. Johan Cruyff, daar hebt u de herhaling.
En demi-finale, Cruyff et les siens rencontrent la surprise du tournoi, les Tchécoslovaques du Spartak Trnava. Prononciation pas plus garantie que celle des joueurs hollandais, qui apprend le tchèque à l'école en France. Enfin, grâce à leur jeu explosif et pétillant, les joueurs de l'Ajax dévorent leurs adversaires. Pour la première fois de son histoire, le club est en finale de la Coupe d'Europe. Mais avant d'être couronné, il faut affronter l'une des équipes les plus redoutées de l'histoire, le Milan AC du grand Nereo Rocco. Régnant sur la Serie A, l'équipe milanaise propose alors un jeu aux antipodes de celui de Rennie Michels, le catenaccio, ou verrou en italien. Un système basé sur le marquage serré et les contre-attaques mortelles. Et très vite, les joueurs de l'Ajax tombent dans le piège italien. Sur la pelouse du mythique stade Santiago Bernabéu de Madrid, ils reçoivent une leçon de réalisme. Profitant des failles défensives du système de Michels, les Milanais l'emportent 4-1. Et une fois encore, le catenaccio affiche sa supériorité. Nostalgie. En tout cas, Rennie Michels est dépité, comme il explique à un journaliste de la télé néerlandaise.
Si l'on regarde les quelques matchs que nous avons joués au niveau international, l'expérience m'a appris que si mes joueurs sont sous pression, si leur cœur commence à battre un peu trop fort, alors il leur arrive de s'effondrer. C'est mon plus gros problème.
Mais pour le général Michels, cet échec ne signifie pas capitulation. Oh que non. Dans son carnet de campagne, il se note une promesse. Désormais, il fera tout pour que son équipe dispose d'un mental à toute épreuve et on va voir ce qu'on va voir. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le grand, l'immense Johan Cruyff.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Juin 1971, nuit de fête au stade de Wembley à Londres. Dans le couloir qui mène à la pelouse, les joueurs de l'Ajax avancent lentement. L'air concentré, revêtus de leur traditionnel maillot blanc frappé d'une bande rouge verticale, ils échangent les dernières instructions de l'entraîneur Rinus Michels. Tous ou presque ont les yeux rivés sur un seul homme, le milieu star de l'équipe, Johan Cruyff. À 24 ans, au sommet de son art, 2 ans après le match raté contre l'AC Milan, il retrouve la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Depuis quelques mois, il semble avoir passé un cap. Ses cheveux ont poussé et son jeu tout en finesse est affûté. Désormais porteur du numéro 14, titulaire indiscutable en sélection nationale, il est la pièce essentielle dans le système de jeu de l'Ajax. Le regard concentré, il est arrivé à Londres avec une seule envie, prendre sa revanche. Et il n'est pas le seul. L'entraîneur, Rinus Michels, lui aussi, a revu sa copie avec de nombreux changements. Ainsi, avec la titularisation du nouveau prodige Johan Niskens et l'arrivée du défenseur Rooney Kroll, l'équipe semble plus équilibrée que jamais. Et elle l'a prouvé, comme devant les Celtics de Glasgow en quart de finale ou l'Atlético de Madrid en demi. Au fil de ces deux confrontations, l'Ajax a montré sa supériorité grâce à son jeu conquérant, offensif, mais aussi discipliné. Face à eux en finale, l'équipe surprise du tournoi, le Panathinaikos d'Athènes. Emmené par l'un des héros de Michels, l'ancien international hongrois Ferenc Puskás, c'est le premier club grec à aller aussi loin dans toute l'histoire de la compétition.
Bal voor Hulschop. Hulschop de Keizer. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingeschat, is het doelpunt! Ja, ja! Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van Piet Keizer.
Devant les 83 000 spectateurs rassemblés dans cette cathédrale du foot qui est Wembley, les favoris rouges et blancs entament la partie par un but en contre Vanjik. Dès la 5e minute, voilà déjà qu'il mène au score. Après ça, plus grand-chose. Bousculés par le système de jeu des Grecs, les Alcides peinent à se créer des occasions. Pendant 80 minutes, les deux équipes se neutralisent. Puis, finalement, à la 87e minute, l'Ajax enfonce le clou à la suite d'un cafouillage du défenseur grec Kapsis. Quand l'arbitre siffle la fin de la partie, c'est la délivrance. Malgré une finale un peu décevante, l'Ajax est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. De retour au pays, les joueurs sont accueillis en héros. Défilé dans les rues d'Amsterdam, rencontre avec la famille royale. Dans une société néerlandaise austère, marquée par le protestantisme, Cruyff et tous ses copains aux cheveux longs deviennent le symbole d'une jeunesse turbulente qui écoute du rock et qui fait rêver les adolescents, et notamment le plus pop de tous, le blond Johnny Rep. Assis au fond de la limousine qui conduit l'équipe dans les rues d'Amsterdam, Rinus Michels, lui, semble ailleurs. Bien qu'il ait conquis l'Europe avec son système, il sait qu'il vit ses derniers instants en tant qu'entraîneur de l'Ajax. Quelques semaines plus tôt, en effet, il a accepté l'offre d'un club historique et prestigieux qui n'a plus gagné de titre depuis 11 ans, le FC Barcelone, le fameux Barça. Cependant, malgré cette période de disette, le club catalan a conservé toute son aura. Sa rivalité historique avec le club de la capitale, le Real Madrid, proche du régime franquiste, symbolise la fracture politique qui agite la société espagnole. D'un côté, la tradition et le centralisme, de l'autre, la liberté et le régionalisme. À son arrivée en Catalogne, Rinus Michels peine à faire appliquer ses principes tactiques. Dans un effectif habitué à la liberté sur le terrain, la discipline quasi-militaire des Néerlandais passe mal et les résultats peinent à arriver. De son côté, après cette première victoire européenne de l'Ajax, Johan Cruyff retrouve sa femme Dani et prend des vacances méritées. En août 71, il fait la connaissance du remplaçant du général, un entraîneur qui fait des miracles avec le Steaua Bucarest, le Roumain Stéphane Kovacs, qui ensuite prendra en main la destinée d'une équipe de France assez nulle, championne des matchs amicaux et indigente en compétition, écartée de toutes les Coupes du Monde, jusqu'à l'arrivée d'un autre immense du ballon rond, triple ballon d'or comme Cruyff, le magique Michel Platini. Quoi qu'il en soit, pour Kovacs, hors de question de changer le système mis en place par son prédécesseur. La méthode Michels, celle qui a mis l'Ajax au firmament, fait désormais partie de l'ADN du club. Mais le coach roumain a un tempérament différent, moins autoritaire que Michels, porté sur le dialogue. Il donne à ses joueurs une plus grande liberté. Et ça paye. Un an après leur premier sacre européen, les joueurs de l'Ajax se retrouvent une nouvelle fois en finale, et là contre l'autre équipe de Milan, elle aussi disciple du Catenaccio, l'Inter. Nous sommes le 31 mai 72 au Feyenoord Stadion de Rotterdam. Ce soir-là, une fois de plus, Johan Cruyff montre l'étendue de son génie collectif. Marqué à la culotte dès la première minute par un ou deux défenseurs, Yopi fait de nombreux appels pour créer des espaces dans la défense. Avec ce travail sans ballon, il permet à son équipe de désorganiser les lignes italiennes. Et à la 47e minute, il ouvre le score. Sur un long centre de Swart, il profite d'une erreur du gardien pour intercepter le ballon, qu'il envoie d'une frappe sèche dans les filets. Quand le commentateur hollandais annonce le score, il fait même un lapsus révélateur, il dit 1-0 pour Cruyff. Trente minutes plus tard, à la 78e minute, le Hollandais volant remet ça. Parfaitement servi par son coéquipier Kaiser, il s'élève dans les airs, puis place un coup de tête imparable dans les petits filets. Le gardien milanais est incrédule. 2-0, score final. Cette deuxième victoire européenne consécutive consacre Johan Cruyff comme le meilleur joueur du monde. Surtout, elle affirme le triomphe définitif de l'esthétique et du mouvement. Un peu partout en Europe, les journalistes sportifs sont sous le charme, comme ici, dans le Times de Londres.
L'Ajax a montré que la création offensive est la véritable essence du jeu et que toutes les défenses peuvent être contournées. Les ténèbres ont été éclairées. Amen.
Sur le toit d'Europe, Yopi et les siens ne comptent pas s'arrêter là. Près d'un an jour pour jour après la victoire contre l'Inter, il remporte un troisième titre européen, cette fois face à la Juve, que les Français appellent la Juventus. Mais alors qu'il soulève la coupe, le numéro 14 ne semble pas aussi impliqué que d'habitude. Peu de temps avant la rencontre, il a appris que la Liga espagnole s'apprêtait à ouvrir ses portes aux joueurs étrangers. Et bientôt, deux propositions tombent. D'un côté, le Real Madrid, de l'autre, le FC Barcelone. En quête de nouveaux défis, à l'étroit dans le club qu'il a vu éclore, et sans doute aussi attiré par la promesse d'un gros chèque, Cruyff choisit naturellement de rejoindre le Barça dirigé par son ancien entraîneur Rinus Michels, une décision qu'il explique à un journaliste de la BBC.
Ça fait longtemps que je veux vivre et travailler dans un pays étranger. J'ai toujours eu envie de jouer en Espagne pendant quelques saisons. Et tout ça est possible maintenant. Quand tu vieillis, tu vois les choses plus clairement sur le terrain. Tu ne penses qu'au football. Et je crois que l'âge idéal pour un joueur, c'est 26 ou 27 ans.
Vous pensez être à votre meilleur niveau ?
Je l'espère.
Pour les supporters du club, les sociaux, ce transfert attise toutes les passions. Entre le génie créatif de Cruyff et la rigueur tactique du général, ils espèrent que le club pourra retrouver son lustre d'antan. D'ailleurs, dès son arrivée en Catalogne, le Hollandais est traité comme un roi. Il se voit même autorisé de fumer des cigarettes sans filtre à la mi-temps des matchs. Une autre époque. 6 mois après son arrivée, le 9 février 1974, peu après un but acrobatique légendaire contre l'Atlético Madrid, Johan Cruyff entre définitivement dans le cœur des Barcelonais grâce à une action loin des terrains. devenu père pour la première fois, il décide de donner à son fils un nom typiquement catalan, Jordi. Et ce, malgré l'opposition farouche du fonctionnaire de la mairie. Au sein du club rouge et bleu, les Blaugrana, le binôme qu'il forme avec Michels, est complété par un troisième larron issu des bancs de l'Ajax, Johan Niskens. Le 17 février 1974, une semaine après la naissance de Jordi, le trio est à la manœuvre lors d'une victoire historique contre les ennemis de Real Madrid, 5-0. Quelques jours plus tard, coup de tonnerre au Barça. Rinus Michels quitte ses fonctions pour rejoindre la sélection nationale néerlandaise. Pour l'entraîneur, la proposition de la fédération était trop tentante. La Coupe du Monde, qui doit se jouer 4 mois plus tard en Allemagne, ce sera la première participation de la sélection orange depuis la guerre. Même s'il a peu de temps, le général Grisonnant sait qu'il peut compter sur ses anciens soldats de l'Ajax. Mais aussi sur l'effectif du Feyenoord Rotterdam, vainqueur 4 ans plus tôt de la Coupe d'Europe. Mais entre les délais courts pour constituer un groupe et l'inexpérience de la sélection au niveau international, l'équipe néerlandaise version Michels peine à convaincre lors des matchs de préparation. Quand elle débarque en Allemagne, elle a donc un statut d'outsider, loin derrière la Mannschaft de Franz Beckenbauer et de Gerd Müller, qui vont gagner la Coupe d'Europe des clubs champions cette année-là, ou du Brésil de Chagas, tenant du titre et donné systématiquement grand favori des Coupes du Monde, y compris aujourd'hui, alors que les Uriverdés n'en ont plus gagné une seule depuis 24 ans. En football, parfois, le ridicule ne tue pas. Dès les premières rencontres, la fabuleuse équipe des Pays-Bas écrase tout sur son passage. Avec un Cruyff de gala et 2 ailiers canons, Rep à droite, Reizenbrink à gauche, sosie de Cruyff d'ailleurs, ceux que la presse a renommés les « oranges mécaniques » disposent facilement de l'Uruguay et de la Bulgarie. Lors du match nul contre la Suède, Yopi se fait remarquer par un geste technique enseigné depuis dans tous les clubs du monde, une fin de passe suivie d'un virage à 180 degrés qui laisse le défenseur pantois. Des années plus tard, il expliquera son geste à un journaliste de la BBC.
À l'entraînement, je ne faisais jamais de gestes techniques, jamais. Ce jour-là, j'ai vu quelque chose et je l'ai fait. C'est sorti tout seul. Il y avait un défenseur devant moi, il fallait le passer, j'ai fait ce que j'ai fait.
Peu à peu, l'équipe hollandaise monte en puissance. Organisée en vagues successives, capable d'attaquer à 10 et de défendre à 11, maître du hors-jeu, les Oranges dévoilent un style étincelant, révolutionnaire, poétique. Pour qualifier leur jeu, une expression est même trouvée par un journaliste hollandais, Football Total, donc. Lors du deuxième tour, les Oranges marquent définitivement le tournoi de leur empreinte, grâce à 2 victoires franches sur 2 des favoris, 4-0 contre l'Argentine, puis 2-0 contre un Brésil sans inspiration, brutal, ouvertement médiocre. Pour la première fois de son histoire, l'équipe des Pays-Bas est qualifiée pour une finale de Coupe du Monde. Mais avant de régner sur le football planétaire, l'équipe doit affronter la RFA de ce diable de Beckenbauer. Défenseur complet, celui qu'on appelle le Kaiser, développe un jeu à l'ancienne, froid, discipliné. Alors, qui de la rigueur germanique ou du romantisme orange va l'emporter? Le 6 juillet 1974, la veille de la finale, la sélection hollandaise est déstabilisée par la parution d'un article assassin dans la presse allemande. Appelé l'affaire de Munich, l'article révèle la participation de plusieurs joueurs, dont Johan Cruyff, à une fête dionysienne organisée dans leur hôtel bavarois. Jeune femme, champagne et piscine, tous les ingrédients du scandale sont là. Dans le vestiaire, cette parution provoque de nombreuses tensions et affaiblit le moral des troupes. Ainsi, Johan Cruyff semble particulièrement affecté. Homme marié, père de famille, le trentenaire passe la nuit au téléphone pour tenter de rassurer sa femme. Le lendemain, sur le terrain, c'est donc une équipe en pleine confiance physique, mais mentalement perturbé qui se présente face à la Mannschaft. Malgré un pénalty dès l'entame du match, les hommes de Michels se font vite piéger par le faux rythme imposé par les Allemands. Muselé par Bertie Vogt, anxieux face à son mariage, Cruyff n'a pas son niveau habituel. Et même s'il réussit à créer plusieurs occasions pour son équipe, aucune n'est transformée. Rattrapé par son manque de réalisme et des replacements défensifs parfois hasardeux, l'équipe néerlandaise s'incline par 2-1. Ce soir-là, l'adage formulé par l'attaquant anglais Gary Lineker se confirme. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Cela dit, soyons honnêtes, cette équipe d'Allemagne, fut probablement la plus belle de toute l'histoire de la Mannschaft, avec les Beckenbauer, Breitner, Vogt et surtout celui qui est encore aujourd'hui considéré comme le modèle de l'avant-centre en football, Gerd Müller, fantastique buteur.
On a manqué tellement d'occasions. On a bien joué, mais on a manqué de précision. On aurait dû marquer plus de buts. On a joué de façon trop confiante. Et si tu es trop confiant, tu ne fais pas les choses parfaitement. Et c'est pour ça qu'on a perdu.
Malgré cette défaite déchirante, les Néerlandais entrent dans le cœur de tous les amateurs du beau jeu. Johan Cruyff, lui, décide de raccrocher pour de bon les crampons de la sélection en 1977. Encore aujourd'hui, les raisons de ce choix sont troubles. Pour certains, c'est la fatigue. Pour d'autres, c'est sa femme, Dani, douchée par l'affaire de Munich, qui lui aurait fixé un ultimatum pour qu'il n'aille pas en Argentine pour le sinistre mondial en 78, où l'équipe hollandaise atteint encore la finale de la Coupe, et encore une fois chez le pays organisateur. Et avec cet autre joueur magnifique en orange, Rob Reisenbrink. Quoi qu'il en soit, l'héritage que Johan Cruyff laisse au football est immense. Du célèbre tiki-taka au schéma de Pep Guardiola qui ont fait la gloire de Barcelone, de la sélection espagnole, mais aussi de Manchester City. Ils sont nombreux à s'inspirer du football total de Cruyff, désormais canonisé.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Johan Cruyff, notre invité, Chérif Gamour, bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel, bonjour à tous.
Journaliste chez SoFoot, auteur du livre Johan Cruyff, génie pop et despot, paru chez Hugo Sport, et tout récemment, auteur du livre Michel Platini, coup franc. Bouclette et petit short chez Marabout. D'ailleurs, ça nous renvoie à l'époque où les joueurs de football jouaient avec des shorts courts.
Des t-shirts, oui, tout à fait. Ouais.
Bon. Dites-moi, un génie pop concernant Cruyff, génie pop et despote, que voulez-vous dire ? Génie, on comprend. Pop, on va y arriver très vite,
ouais.
Mais despote.
Despote, bah, c'est le caractère autoritaire de Johan Cruyff qui, très jeune, avait une sorte de leadership naturel. Alors ça vient à la fois de la confiance en lui qu'il avait, d'abord en tant que footballeur, c'est-à-dire qu'il avait une sorte de préscience, il comprenait tout le jeu avant tout le monde, et c'était surtout un super technicien, un super dribbleur, joueur très rapide, donc ça lui donnait un peu cet air de supériorité qu'il a très vite transformé en statut de chef, qu'il a assumé, et très très tôt, c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas, dans un vestiaire, à s'adresser, alors qu'il avait quoi, 19-20 ans, comme vous l'avez rappelé dans le commentaire, 19-20 ans, il s'adressait à des joueurs de 30 ans, 32 ans, qui étaient, entre guillemets, des darons de l'équipe, et le pire, c'est qu'en fait, il se trompait pratiquement jamais. Alors du coup, comme il était conforté par un peu cette préscience, et puis le fait aussi qu'il marquait énormément de buts, c'est lui qui emmenait l'équipe, et ça, il l'a fait très très tôt, progressivement, on peut dire que ouais, il y a une dérive un peu autoritaire, et qui a fait que par moments, il s'est senti plus important que l'équipe, plus important que l'entraîneur, donc il guidait certains choix de recrutement, les joueurs qui ne s'entendait pas très bien avec lui. Bon, il avait des rapports assez froids. Et plus tard, dans l'équipe des Pays-Bas, il a fait carrément exclure des joueurs très importants, notamment le gardien Van Beveren du PSV Eindhoven, tout simplement parce que, entre guillemets, les caractères ne s'accordaient pas. Et ça a pu être préjudiciable à l'équipe des Pays-Bas, qui a joué pendant plusieurs années sans son meilleur gardien de but.
Il a joué avec Jungblud, il me semble.
Ouais, Jungblud, ça c'était... Voilà, très bon exemple, Jungblut, c'est par contre un joueur bon, qui n'était pas à l'Ajax, c'était un gardien de but, avec lequel il s'entendait bien. Donc ouais. Il l'a plus ou moins imposé. Ça allait loin quand même. Hein,
ouais, ça allait loin. Ça rappelle un peu Platini et Michel Hidalgo. Hein,
oui,
part.
Mais Platini était quand même très respectueux de Michel Hidalgo. C'est Michel Hidalgo qui faisait l'équipe. Michel Platini donnait son avis, mais c'est Michel Hidalgo qui avait quand même le dernier mot.
C'est bien de le rappeler. Alors, génie pop. C'est vrai que cette équipe de Hollande, c'est un peu les Beatles au football.
Les Beatles, Led Zepp, c'était des footballeurs chevelus, donc qui tranchaient par rapport aux footballeurs de l'époque, hein, qui avaient la raie stricte sur le côté, des pères de famille, qui mangeaient de la viande et des légumes, comme selon l'expression anglaise. Non, eux, les joueurs hollandais, notamment les joueurs de l'Ajax, c'était des joueurs libertaires, avec le grand mouvement Provo, c'est-à-dire un grand mouvement contestataire de la jeunesse qui a précédé un peu les swinging, la swinging London de 66 et puis le mai 68 politique à Paris. Ils se sont émancipés très tôt des carcans de la société un peu traditionnelle calviniste néerlandaise, tout simplement parce qu'ils écoutaient de la musique pop, ils étaient jeunes, ils sentaient que la jeunesse allait prendre le pouvoir, et ça Johan Cruyff l'incarne parfaitement. Il a un peu la même intuition que Mick Jagger au début des années 60, c'est-à-dire que Mick Jagger a l'intuition que le rock'n'roll va devenir très important parce que ben, du fait du baby-boom avec la jeunesse qui est très très importante dans la société, il sent que le rock va devenir une musique très 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 qui va se développer et surtout qui va pouvoir en vivre. Et Johan Cruyff a la même intuition, il sent que le football va devenir quelque chose de spectaculaire avec une dimension artistique et que pour cela, il va falloir la monnayer.
Ouais.
D'où l'homme d'argent qui va devenir.
Et en face, il y a cette fameuse équipe d'Allemande dont le Satur et le Bayern de Munich qui va gagner également trois Coupes d'Europe de suite. Hein,
après.
Juste après l'Ajax, c'est formidable. Donc cette finale entre l'Allemagne et les Pays-Bas, c'était la finale rêvée, c'était presque le Bayern contre l'Ajax d'Amsterdam, avec une équipe allemande qui, dit-on, était très politisée, avec un Breitner qui était...
Breitner.
Un homme de gauche, Beckenbauer apparaissait plutôt comme un homme de droite.
Ouais.
Et c'était une équipe d'Allemagne qu'on n'aimait pas parce qu'elle a cassé le rêve des Hollandais, mais c'était une très belle équipe d'Allemagne.
C'était une excellente équipe.
Mais il faut le dire. Hein,
oui, c'est une excellente équipe. D'ailleurs, les 2-1, les scores 2-1 en général, ils reflètent toujours la réalité du rapport de force. C'est-à-dire ces deux équipes qui se valent. Mais voilà, l'Allemagne a marqué un but de plus. Mais c'est deux équipes fantastiques. L'Allemagne n'a pas volé sa victoire. Johan Cruyff l'a très sportivement reconnu. Il fallait un vainqueur, en fait, tout simplement. Et alors, le monde entier était pour l'équipe des Pays-Bas. Et le miracle de cette finale, comme l'a dit très justement Cruyff, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire du foot où on a retenu l'équipe perdante qui est restée dans le cœur des gens que plutôt l'équipe gagnante.
Alors, on peut considérer qu'il y a comme ça 7 ou 8 plus grands joueurs de l'histoire. Les comparaisons sont compliquées parce que c'est pas le même football selon les années. Cruyff fait partie évidemment des 5 plus grands. On peut lui préférer Pelé, Maradona, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est le footballeur le plus influent de l'histoire du football ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que Johan Cruyff est tridimensionnel. Il y avait le grand joueur de génie qu'il a été, donc avec ses égos, ses pairs et tout. Il y en a peut-être qui sont au-dessus, c'est pas un souci. Ça a été un grand entraîneur, révolutionnaire, et surtout c'était un doctrinaire, un peu dans le style, je dirais, académique, universitaire. Ouais. Il a écrit des livres sur le jeu. Et ça, à ma connaissance, c'est le seul joueur qui réunit ces trois dimensions. Donc, le plus grand footballeur de l'histoire, non. L'homme le plus influent du football, oui, tout à fait, absolument.
France Inter. Affaires sensibles.
Shérif Guémour. Est-il vrai que Johan Cruyff n'a pas participé à la Coupe du Monde 1978 parce que, à cause de l'affaire des soirées en 74, son épouse lui aurait dit « si tu y vas, je divorce ».
Il y a très certainement une part de vrai, parce que ça a créé un choc dans le mariage du couple Cruyff. Il y a l'explication que Johan Cruyff a publiquement avancée, c'est qu'il a subi un homejacking, une sorte de braquage à son domicile barcelonais un an avant la Coupe du Monde, qui l'a très marqué parce que ça a été assez violent, sa femme a été ficelée, attachée, donc il a eu très peur. Et il a vécu un peu, pas dans la clandestinité, mais bon, il a quand même une protection rapprochée dans la vie de tous les jours. Ses enfants étaient en bas âge. Ça l'a très, très marqué. C'est fort probable que ce soit la cause principale. Il y a un peu la cause politique. C'est ce qu'on a avancé pendant longtemps, parce que c'était une dictature, la dictature du général Videla en Argentine.
Ça, c'est très présentable.
Il en a un petit peu parlé, mais c'est pas la cause principale, mais ça a très certainement joué. Et enfin, il y avait la lassitude du football et tout. Puis il a toujours eu des rapports distants avec l'équipe, avec la sélection nationale, pour des tas de raisons, pour des raisons à la fois financières, à la fois d'équipementier, et puis d'assurance et tout, parce que lui jugeait que la fédération n'était pas assez professionnelle. Et voilà, donc du coup, il n'a pas fait la Coupe du Monde 78, malgré les tonnes et des tonnes de courriers qu'il a reçus à son domicile pour le faire venir sur sa décision, mais il n'est pas revenu.
Quel regret quand même, parce que cette équipe de 78 était aussi forte que celle de 74, flanquée d'un joueur merveilleux, Renzenbrink, dont il faut parler.
Ouais, c'était le pendant de Johan Cruyff de 74 en 78, donc voilà, c'était le meneur de jeu, marqué beaucoup de buts, et Renzenbrink aurait pu porter cette équipe des Pays-Bas, mais bon, ils n'ont pas eu de chance, les Hollandais, ils ont fait deux finales...
Dans le pays organisateur,
c'est toujours très dur.
C'est
surtout en Argentine, parce que le public était vraiment hostile, de l'hôtel jusqu'au stade, le car a été pas mal secoué, il a été retardé et tout. Donc voilà, c'était pas facile, il y avait vraiment un climat hostile. Et puis, voilà, quoi, l'Argentine a donné 100%, 200% de ce qu'ils avaient. Puis une fois de plus, les Pays-Bas viennent tardivement aux grandes compétitions internationales. Ouais. Donc 74, 78, l'Euro 76, là aujourd'hui ils sont beaucoup plus expérimentés. Mais c'est très très important, l'expérience des grands tournois internationaux.
Et alors, ils n'ont pas eu de chance non plus lors de la troisième finale de Coupe du Monde, ils tombent sur une équipe d'Espagne stratosphérique, totalement imbattable, hors de portée tout le monde.
Sur terrain neutre, là, c'était en Afrique.
C'était sur terrain neutre, mais devant l'Espagne, c'était impossible, avec ce triplé magique, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Merci infiniment, Chérif Guémour, pour cette conversation si agréable, et bonne année à vous.
Bonne année à tout le monde, tous les auditeurs.
Bonne année à tous les auditeurs et auditrices, avec tout plein d'histoires sensibles. Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Johan Cruyff et le football total. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.